que nous sommes occupés. J'espère que d'ici Shavuot, on aura très peu de trous, enfin on essaiera de terminer le sujet de la sélection d'identité dans la famille d'Abraham. Je vous rappelle comment ça se dit en hébreu, c'est Berour. Le terme de Berour, ça veut dire séparer pour sélectionner. Vous avez dû apprendre déjà ce terme à propos des Ilkhot Shabbat. Vous avez déjà fait Ilkhot Shabbat ?
Mm-hmm.
Oui. Alors Berour, comment ça s'écrit ?
Berour, c'est le triage, non ?
Comment ça s'écrit ?
Bet, Rash, Yud, Vav, Rash.
Mais pas plus fort. Moi j'ai peut-être
Bet,
entendu.
Bet, Rash.
Ensuite.
Vav, Rash.
Bet. Il y a un Yud après le premier Bet. On ne met pas toujours le premier Bet. Berour, ça veut dire le tri dans ce que vous avez étudié. Mais l'idée fondamentale de ce terme, les varer, c'est trier pour sélectionner, pour séparer, les varer, pour faire sortir ce qui va rester. C'est clair ? Donc, et alors, vous avez un autre terme, très proche, c'est les baer, bet aleph resh, qui signifie mettre en évidence. Un biour, c'est un commentaire. Mais ne vous confondez pas, vous entendez la différence. Dans ce terme, les baer, il y a un aleph au milieu. Les varer, il y a deux resh. Et un autre mot qu'il ne faut pas confondre avec tout ça, c'est les baer avec aïn. Ça veut dire
brûler.
Par exemple, à propos de Pessah.
Yochamed.
Bien, alors voilà, retenez ce terme. Birour. Le birour, c'est que l'identité revenue de Kazdim avec la famille d'Abraham va être mise à l'épreuve d'une épuration d'identité jusqu'à ce qu'elle redevienne hébreu. Vous vous rappelez que la famille d'Abraham était rescapée des Hébreux à Our Kasdim, dans la situation de Babel, et là-bas, quelle était leur identité ? Répondez pas tous à la fois. Hein. Quelle était l'identité d'Abraham à Babel ? En hébreu ?
Arami.
Plus fort. J'entends pas. Vous savez ?
Arami.
Arami. Arabe. L'identité hébraïque dans l'exil de Babel est araméenne. À la manière, vous vous rappelez du parallèle, à la manière de l'identité hébraïque dans l'exil de Rome, c'est l'identité. Dites-moi, est-ce que vous apprenez ce que vous apprenez ou vous assistez voilà. L'exil de Rome, c'est quel exil ? Pourquoi tu as peur de dire en français ? L'identité
juive.
Il y a un parallèle entre hébreu araméen, hébreu, plus exactement judéen, qui est le dernier des hébreux, juif. Alors, de la même manière que Abraham revient d'Our Kasdim avec l'identité araméenne. Et cette identité va être mise à l'épreuve d'une épuration d'identité en trois générations, jusqu'à ce qu'on arrive à Jacob qui reçoit le nom d'Israël. Ça veut dire, dans le langage du sujet qu'on étudie, cette identité hébraïque n'arrive à se purifier du retour de l'exil qu'à la troisième génération avec Jacob. Jacob, c'est un Abraham redevenu hébreu. Alors, il s'appelle Israël. C'est clair ? Vous avez bien suivi l'analyse, hein ? Je sais bien que ça peut vous paraître inhabituel, mais je vous répète la consigne d'étude que je répète souvent, il faut lire le texte dans l'ordre. Abraham arrive comme Abraham, c'est son nom araméen. Et ce n'est qu'après un effort d'identification qu'il mérite le nom d'Abraham. Seul Abraham peut être Abraham, mais c'est Abraham qu'il faut être, c'est pas Abraham. Vous avez suivi ce que je dis ? Alors, ce verrou de Zéhout, cette purification, cette sélection d'identité prend trois générations jusqu'à ce que Jacob soit cet Abraham qui peut être appelé Israël. Alors, entre-temps, il y a différentes lignées qui se sont séparées de la famille d'Abraham. La première étape qu'on a étudiée, c'est Lot qui se sépare d'Abraham, je ne reviens pas là-dessus, et Lot va fonder deux peuples qui sont
Moab
et Ammon. On dit en général dans l'autre ordre, Ammon et Moab. Et il y a une rivalité entre Amon et Moab, qui a duré tout le temps de l'histoire de la Bible, contre Israël. Cette rivalité n'est pas terminée complètement, mais enfin, ce n'est pas de cela qu'on va s'occuper en gros plan. En gros plan, on va s'occuper de deux rivalités qui procèdent de deux branches de la famille d'Abraham, beaucoup plus intérieures encore que celles de Lot. La première, c'est Ishmaël, le premier fils d'Abraham. Lorsque Ishmaël est né, Abraham n'est pas encore Abraham. Et tout ce à quoi je fais allusion, on n'a pas le temps de le voir en détail. Alors, je vous fais confiance que vous lisez ces textes par vous-même. Peut-être sans les avoir en mémoire. Mais retenez au moins ces indications. Ne confondez pas, Ishmaël n'est pas fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Et nous verrons qu'est-ce que ça implique comme différence. Il est évident que, ça vous pouvez déjà le percevoir par vous-même, un musulman, et un ismaélite et un hébreu, ce n'est pas exactement la même chose. Et à la limite, un musulman et un juif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est clair ce jour-là. On a déjà rencontré souvent cette notion. Deux choses très proches se ressemblent. Mais parce qu'elles ne sont que proches, elles sont très loin. C'est clair? Bon. Quoique l'identité la plus proche de l'identité hébraïque, c'est quand même l'identité d'Ishmaël. Mais il y a dans cette proximité un abîme d'approximation qui fait que tant qu'il y a conflit, c'est un conflit que vous lisez dans les journaux d'ailleurs, c'est un conflit impitoyable. Malheureusement, il y a cette faiblesse d'Israël vis-à-vis d'Ishmaël que l'on décèle déjà chez Abraham. Vous avez le texte en tête, quel? On va y arriver, j'espère, tout à l'heure, sinon la semaine prochaine, quand Sarah intervient pour séparer Ishmaël de Isaac, Abraham, ça ne lui fait pas plaisir. C'est la même réalité que nous vivons dans cette tendance des Juifs et des Israéliens, qui sont dans ce cas, à protéger Ishmaël tout en sachant que Ishmaël est leur ennemi. Vous suivez cela? On va déceler ça à la racine même de l'histoire des partis. Bien. Dans tous les cas, la première ligne qui va se séparer de la famille d'Abraham, c'est Ishmaël. Et en fin de compte, Ishmaël, comme vous le savez, va fonder l'islam. Il y a là un parallèle qu'il faut arriver à bien comprendre. Je vous dis de manière très simple, mais ça implique toute une réalité qui a duré des siècles et des millénaires, et qui est extraordinairement étonnante, que la réalité de l'histoire, à travers les siècles, rend compte de ce que la Bible raconte, c'est-à-dire que Ishmaël va fonder l'islam, mais Ishmaël était le rival d'Isaac, et voilà que l'islam est le rival d'Israël sur le même dossier. À qui appartient la terre d'Abraham? Vous relisez le texte, vous verrez que c'est cette histoire qui est racontée. Seulement, ça donne tellement le vertige qu'on préfère ne pas le voir. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un des éléments du dossier. Après l'histoire d'Amon et Moab, encore une fois, vous n'avez pas assez de connaissance de l'histoire d'Israël biblique pour savoir à quel point c'était important, cette rivalité d'Amon et Moab, je laisse de côté, mais la rivalité de Ishmaël, celle-là, dans le temps contemporain, elle occupe notre actualité, si vous voulez, c'est une réalité massive. L'islam conteste à Israël, quoi ? La terre d'Abraham. Alors, lorsqu'on lit le récit de la Bible concernant l'histoire de la famille des patriarches, on s'aperçoit qu'effectivement, Ishmaël conteste à Isaac la terre d'Abraham. C'est clair ? Bon, alors ça, on va étudier un peu en détail. Et puis, à la troisième génération, nous allons avoir de nouveau une rivalité entre Ésaü et Jacob, les enfants d'Isaac. Alors, ce qu'on connaît moins, c'est que Ésaü va finir par fonder la chrétienté, ça c'est moins visible dans les connaissances que vous pouvez avoir, donc on l'étudiera plus en détail. Et de nouveau on s'aperçoit du même parallèle. La chrétienté, comme Ésaü, réclame le nom d'Israël et réclame l'héritage spirituel d'Israël. Alors il y a deux conflits qui sont annoncés dans le récit de l'histoire de la famille des patriarches. Ishmaël va nous réclamer la terre d'Abraham, et Ésaü va devenir la chrétienté et va nous réclamer le ciel d'Abraham. Et ces deux conflits, nous sommes en train de les vivre de manière plus évidente que pendant 2000 ans, parce que l'État d'Israël a reconstitué la nation hébraïque. Et donc, c'est cette histoire que nous sommes en train de vivre. Bien, alors ne réfléchissez pas trop au problème que pose ce parallèle. C'est-à-dire, comment se fait-il que la prophétie hébraïque ait dit à l'avance ce qui allait se passer dans, à travers plus de 3000 ans d'histoire, dans cette rivalité qui a énormément d'étapes. Mais nous sommes au temps où on ne peut pas ne pas nous en rendre compte. C'est l'histoire de la famille d'Abraham que nous vivons dans le problème des rapports entre Israël et le reste de l'humanité. C'est clair ? En réalité, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les cours précédents, il y a 7 rivalités contre Israël, et on va surtout étudier ces deux-là, Ishmaël et Esav. Mais je vais récapituler les 7 rivalités, et je pense que je vous ai donné déjà ce tableau, mais enfin, ça fait rien, on va le reprendre. D'ailleurs, ça me fait penser, qui n'était pas là dans les cours précédents ? Qui vient d'arriver ? Bon, il faudra, si vous restez à suivre ces cours, il faudra vous renseigner avec quelqu'un qui sait prendre les notes pour réviser ça avec lui, sinon vous allez rien comprendre. Enfin, je le crains. Et tout le monde n'est pas rentré de vacances, ou bien il y en a d'autres qui vont arriver? Bon, là aussi, vous verrez avec eux pour les remettre en scène. Alors, je vous rappelle que, mais il me semble qu'on avait commencé ce tableau une fois, et puis on avait été arrêté parce qu'il y avait des gens de la Sournoute. C'est toujours leur habitude. Je reviens donc au sujet. J'ai dit qu'il y avait deux lignées de personnages qui accompagnent l'histoire de la famille des patriarches. Il y a une lignée qui sont les antagonistes d'Israël qui est en train de naître et qui a pour objectif de détruire Israël. Et il y a une lignée des rivaux d'Israël qui sont des approximations d'Israël. Alors on va les prendre à travers les 3 générations. La première génération, c'est la génération d'Abraham. Alors, qui a été l'adversaire d'Abraham qui avait pour objet de détruire cette famille des Hébreux qui allait fonder Israël ?
Nimrod.
Nimrod était ?
Roi.
Plus fort.
Le roi ?
Roi de quoi ?
Roi de Babylone.
Mais pas plus fort, si j'entends pas. Regarde, la prochaine fois que je demande à quelqu'un de parler et qu'il m'oblige à faire un effort pour répéter que j'entends pas de loin, et je lui dis pourquoi j'entends pas, j'ai fait la guerre et il y a des obus qui ont éclaté. Alors, je le mets à la porte. Hein. Et une fois pour toutes, quand vous me parlez, parlez fort. C'est clair ? Stop. Alors, qui est Nimrod ?
C'était le roi où Abraham habitait avant qu'il
vous attendez ? Le roi de quoi ?
Babylone.
Babel. Le roi de la civilisation de Babel, où les Hébreux étaient. C'était pas exactement le roi, c'était le tyran de Babel. Il faudrait dire l'empereur, parce que c'était un empire. Mais quand tu traduis Meler par roi, alors tu as dit roi. Bien. Son titre, c'est Meler Babel. C'était le chef de l'empire de Babel, où les Hébreux étaient en Égypte. Un peu, si vous voulez, comme Hitler au temps des nazis. Hitler a été le tyran de cette histoire où les juifs ont été pris à la manière dont étaient pris les hébreux à Babel. Donc, et qui était, au niveau de la génération d'Abraham, le rival d'Abraham, et ça on a lu cette histoire, c'est
Lot.
Très bien. Deuxième génération, Isaac. Et l'antagoniste d'Isaac, qui a pour objet de séparer, comment on dit en français, les nations, de détacher Israël de sa terre, c'est Abimelech. Abimelech, quand vous apprendrez plus de textes, vous arriverez à le diagnostiquer, comme les pharaons, les Abimelech, c'est une dynastie. Alors, Abimelech, on trouve un Abimelech au temps d'Abraham, un Abimelech au temps d'Isaac, mais c'est surtout l'Abimelech du temps d'Isaac qui est dangereux. Comme par exemple, vous aviez en France la dynastie des François, la dynastie des Philippe, la dynastie des Louis. Alors il y a les pharaons, les Abimelech. Le dernier des François en France, c'est François II, Mitterrand. François Ier, c'est le premier. Et vous savez très bien qu'il se prend pour un roi. Et alors, Abimelech est le roi de... Le roi de quoi?
L'Égypte.
Hein?
L'Égypte.
Non. C'est les pharaons qui sont les rois d'Égypte. Le père. Bah, on va faire un hidoum. Tu es sûr que ce n'est pas le roi de Transylvanie? La Philistée, les Philistins, vous n'avez pas entendu parler?
Oui. Bon,
c'est le nom que les Romains, bien plus tard, prendront pour faire la Palestine. Rabbi Meir, c'est le roi d'un territoire qui avait pour capitale. Alors maintenant, ça, vous devez savoir. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous lisez? La Bible ou les Péniclés? Si je ne veux pas trop perdre de temps, mais je vais vous raconter une histoire. La manière dont les juifs français ne sont ni français ni juifs. Comment? Parce que tout ça, un français de base, la culture de base d'un français, c'est connu. Alors les juifs, à plus forte raison, ça devrait être connu. Quand je m'occupais à Paris des étudiants juifs, après la guerre, j'avais fondé un cercle d'études bibliques pour les étudiants juifs. Et naïvement, on a invité à une soirée les étudiants catholiques et les étudiants protestants. Il y a eu une seule soirée. Donc, dès qu'on citait un verset, les catholiques et les protestants, c'était à bout portant. Ils nous donnaient la référence. Les juifs, ils ne savaient même pas que ça existait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De quel cimetière ça sort, les juifs de France. Et alors, je reviens au sujet. La seule manière de combler cette lacune, puisque vous n'avez pas fait l'école juive quand vous étiez enfant, c'est de lire le plus possible, mais lire la Bible, pour que vous ayez dans la tête. C'est clair? Personne n'ose répondre. Alors, Abimelech, c'est le roi de Gaza. En hébreu, ça s'appelle Gaza. Bon. Et vous voyez que depuis ce temps-là, on a des problèmes avec Gaza, avec ça ne gaspille pas. Et alors, ça c'est Abimelech. Vous relirez dans les passages qui concernent les rapports entre Abimelech et Abraham, Abimelech et Isaac, ce qu'Abimelech veut, c'est la terre des Hébreux. Et il l'appelle, il l'appelle ma terre. À un moment donné, Abimelech dit à Abraham, « Hine arzi lefanecha. » Voilà, ma terre devant toi, choisis le ghetto que tu veux. Et Abraham accepte. Alors juste après, Dieu lui réclame Isaac. Il dit, je t'ai donné un fils pour cette terre, tu veux pas la terre, rends-moi ton fils. Ça, on étudiera plus tard. Mais lisez le texte, et comment ça se suit. Et donc ça c'est Abimelech. Et quel est le rival de Isaac? L'approximation de Isaac, c'est qui?
Ishmael.
Ishmael. À la troisième génération, c'est Jacob, la génération de Jacob, qui est l'antagoniste de Jacob, qui veut détruire Israël, qui va procéder de Jacob, c'est
Laban.
Et Laban, c'est son oncle. C'est l'araméen qui veut rester araméen et ne veut pas redevenir hébreu. Dans le temps contemporain, c'est très facile de diagnostiquer de quoi il s'agit. C'est le juif de l'exil qui veut rester juif de l'exil et qui s'oppose à l'israélien. C'est clair. Vous voyez, je reprends le parallèle. C'est bien que ça donne le vertige, okay, mais cette histoire, on l'a déjà vécue. C'est l'hébreu qui était devenu araméen en exil, qui veut rester araméen et ne veut pas redevenir hébreu, et qui s'oppose à son neveu Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui veut redevenir hébreu. Et la Gaza de Pessah a mis en évidence que le pire ennemi d'Israël, c'est Laban, pire que le pharaon. Vous vous rappelez de cela? Et alors, ne cherchez pas des diagnostics de gens que vous connaissez, ça va vous donner des cauchemars. Mais en fait, quand vous avez cette réaction des Juifs de l'exil qui refusent Israël parce qu'ils préfèrent l'exil, c'est là-bas. C'est clair? Alors, chacun se donne des alibis. La Libye le plus dangereux pour Israël, c'est un pays qui s'appelle la Libye, mais indépendamment de ce pays, c'est la Libye anti-israélienne au nom de la Torah. Ça, c'est pire que ça, c'est là-bas. Laban à Arami. Et en général, ils ne parlent pas hébreu, ces gens-là. Ils s'inventent des langues exotiques. En tout cas, pour revenir au sujet, nous voyons que l'antagoniste d'Abraham, c'est Nimrod. l'antagoniste de Yitzhak, c'est Abimelech. L'antagoniste de Jacob, c'est Ésaü. Chacun des trois essaye de détruire Israël par un biais de l'identité d'Israël. Nimrod s'attaque au peuple. Il veut détruire le peuple. Et Abimelech s'attache au lien entre le peuple et la terre. Et Ésaü s'attache Et Laban s'attache à l'identité du peuple, à son âme, à sa Torah. Et d'autre part, dans l'autre lignée, vous avez les rivaux. Alors, au niveau d'Abraham, c'est Lot, au niveau d'Isaac, c'est Ishmael, et au niveau de Jacob, c'est Ésaü. Vous savez, vous êtes clair ? Ça fait 6 dossiers que nous avons à vivre. Et je vous ai donné les noms des personnages, mais vous comprenez par vous-même quels sont leurs taranos, comme on dit en hébreu. Quelles sont leurs revendications, quelles sont leurs rivalités. Et puis, à certaines époques, qui sont les époques de fin d'exil, il y a un septième personnage qui apparaît et qui récapitule les deux revendications. Et détruire et remplacer. Et ce personnage s'appelle Amalek. Voilà. Et alors, je termine ce tableau. Amalek apparaît à la sortie d'Égypte. Amalek apparaît à la fin du deuxième exil. Tout le livre d'Esther ne parle que de ça. Au moment du retour du deuxième royaume de Juda, Amalek apparaît pour essayer de détruire les Judéens qui allaient revenir en Israël. Et de notre temps, le monde entier se cherche un Amalek par génération. C'est les Allemands, c'est les Russes, c'est les Arabes, c'est tout ce que vous voulez, qui ont contre Israël cette revendication, détruire Israël et le remplacer. C'est clair ? Stop. Alors, il faut prendre conscience de cela pour deux sujets au moins. Premièrement, être très vigilant concernant l'importance biblique de l'État d'Israël dans ces problèmes historiques et politiques que nous vivons aujourd'hui, c'est les mêmes que l'histoire de la famille des patriarches. Nous sommes dans la semaine de la commémoration de la révolte du ghetto de Varsovie. Vous savez à quel point c'est important de voir cela. Et ce qu'a voulu faire Hitler il y a 50 ans, c'est ce que voulait faire Nimrod en son temps. Et la tradition nous a laissé ces récits, on n'a pas voulu les croire. C'est arrivé et on fait semblant que c'est arrivé. Et puis, la deuxième chose, c'est de prendre conscience de l'urgence de l'hébraïsation des Juifs pour réussir le projet de l'histoire d'Israël. Et alors, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire Juifs possédant des pays de culture française, il ne s'agit pas d'oublier la culture française. C'est une grande culture. Mais il s'agit de prendre conscience que ce n'est pas la nôtre. C'est un grand cadeau que les goïms de culture française nous ont fait. Et que tant qu'on restera avec cette mentalité des évidences des juifs de l'exil en français, ça empêche l'hébraïsation de l'israélien qui vient de France. Je vous dis cela parce que l'expérience nous montre que ce n'est pas facile. On ne peut pas arriver à retrouver cette identité hébraïque magiquement, c'est un poids d'habitude mentale, spirituelle, culturelle, existentielle, énorme, dont il faut arriver à se dégager tout en l'assumant, tout en le gardant dans la mémoire. Parce qu'une des raisons de l'exil, c'est de ramener les valeurs qu'on a reçues chez les Goyim, de les ramener à Jérusalem. Et si j'ose dire, mais on reprendra ça à la fin de l'année, les Juifs francophones ont pour charge d'intégrer les valeurs françaises dans la culture israélienne. Les Juifs russes, les valeurs russes, les Juifs alsaciens, les valeurs alsaciennes, etc. Bon, les Alsaciens, c'est des Français, je ne sais pas jusqu'à quand, mais enfin. Vous savez qu'il y a un Alsacien ? Il n'y a pas d'Alsacien parmi vous ? Alors toi, tu le reconnais. C'est un Belge qui voulait devenir Suisse, il s'arrêtait en route. C'est bien. Il a versé de quelle famille ? Pas plus fort.
Je connais ma mère.
De quelle famille ?
Klein.
Klein. Alors ça, c'est des vrais de vrais. Mais il y a un clin d'œil là. Mais je vais vous raconter une anecdote. Donc c'est pas de l'électrochoc. C'est pour que vous preniez conscience de quoi il s'agit. Je vais vous raconter une anecdote. Et il y a très longtemps, j'ai fait une conférence à Strasbourg. Tu te rappelles le Merkaz de Strasbourg, ça te dit quelque chose. Et puis j'expliquais ce thème qu'on étudiera plus tard. Quelle est la raison de l'exil? Quelle est la raison de la dispersion? C'est une dimension tellement permanente de l'histoire d'Israël, ça pose un problème. Comment expliquer ça? Alors les Juifs s'ingénient à donner des réponses, aucune des réponses ne tient vraiment debout. Je vous dirai très rapidement, mais on étudiera plus en détail. D'ailleurs, je pense que vous étudierez dans d'autres cours aussi, surtout en cours d'histoire. Une première réponse consiste à dire, on est en exil pour la punition de nos péchés. Et alors, il y a des indications de cela dans la Torah, dans la Bible en général. Mais je vais vous poser une question et vous réfléchissez. Dans l'histoire de la famille d'Abraham, j'ai fait peut-être allusion au propos de Pessah. Dieu prédit à Abraham que sa descendance sera en exil avant même que l'histoire d'Israël ait commencé. C'est clair ce sujet-là? Il y a un problème. Hein, et vous savez qu'on a l'habitude de dire dans la prière, Mipene hataenu gilinu mertenu. À cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre pays. Vous connaissez ça? Mais par rapport à cette question que j'ai posée à propos d'Abraham, il y a un midrash. Il nous fait dire autrement. Il nous fait dire Mipene hataenu, pas à cause de nos fautes, avant nos fautes. Mipene hataenu. Avant d'avoir fauté, nous avons été exilés. Décider d'exiler. C'est un mystère. Mais rappelez-moi qu'on étudie ces différentes doctrines. Et alors, c'est d'autant plus dangereux une thèse de ce genre que ça se heurte à des invraisemblances. D'abord, ce n'est pas les mêmes qui ont fauté et les mêmes qui sont en exil. Et la Torah enseigne que les fils ne payent pas pour la faute des pères. C'est invraisemblable, ça ne tient pas debout. Je ne sais pas si c'est clair. Et puis d'autre part, vous savez ce que les chrétiens ont fait de cette thèse? C'est qu'il faut que les Juifs souffrent en exil pour expier une faute. Voilà ce que les chrétiens ont fait. Alors, méfiez-vous de thèses de ce genre. Quoi qu'il y a des indications dans les sources de la Bible, et du Talmud et tout le reste, que s'il y a des fautes, la dispersion se transforme en exil. Le lien que Israël doit avoir avec les nations, qui pourrait être dans l'honneur et dans la gloire, se transforme dans un lien de persécution. Mais ça, on étudiera d'autres points. Mais le fait qu'il y ait un lien avec les nations, le fait qu'il y ait un problème particulier par rapport à un peuple parmi les autres, un peuple qui peut être n'importe quel autre peuple, demande aux Juifs français à quel point ils sont pris pour des Français, et plus que les Français. Et les Allemands la même chose, les Britanniques la même chose. Je connais des Juifs croates et qui préféraient à Sarajevo qu'à Jérusalem, par fidélité à mon pays, la Croatie. C'est ce qu'ils croient. En tout cas, pour revenir au sujet, et vous vous rendez compte à quel point l'histoire juive est une histoire de fou. Enfin, je reviens dessus. Il y a une deuxième thèse. Cette deuxième thèse qui veut expliquer la dispersion en exil, on la trouve de manière plus récente, vers le 18e, 19e siècle. C'est une thèse du libéralisme humaniste. C'est que les Juifs sont censés avoir une mission chez les Goïms. Et c'est la raison pour laquelle il est préférable que les Juifs habitent chez les Goïms plutôt que chez eux. Et quand on leur demande quelle mission, personne ne se répond. Qu'est-ce qu'on fait chez les Goïms? En réalité, on fait du tourisme économique. Tout le monde le sait. On fait semblant qu'on leur enseigne la Torah. C'est les curés qui leur enseignent la Bible, rien à voir. En tout cas, pour revenir à notre problème, la Torah elle-même enseigne une toute autre histoire. On l'étudiera à propos de l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que faisait Joseph en Égypte? De quoi il s'occupe? Et je résume cela. Alors donc j'étais occupé au Merkaz de Strasbourg, une conférence il y a peut-être 20 ans, à expliquer ça à tous les Juifs qui étaient là dans la salle, en leur expliquant que nous avons pour charge de recueillir les valeurs des Goïms et les mettre à l'abri dans la sainteté d'Israël au temps messianique, au temps du retour. Alors il y a un Juif, un rabbin d'ailleurs, je ne dirai pas son nom parce qu'il va le connaître, au fond de la salle, qui me dit avec un accent, non je ne parlerai pas de l'accent, tu vas le reconnaître, avec un accent marocain comme c'est pas possible. moi j'ai même pas l'alsacien. Alors il se lève et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ramener les valeurs du Maroc. Alors je lui ai répondu, tu préfères ramener les valeurs de l'Alsace? Et toute la salle, c'est esclavé. Vous avez compris ce qui se passe? La salle, c'était des Alsaciens. Et je vous rassure, je suis citoyen d'honneur de la communauté de Strasbourg. J'étais un des valeureux soldats français qui ont libéré Strasbourg. Et alors, j'ai même failli donner ma vie pour Strasbourg. Et alors, voilà le problème. Alors, quand tu me dis que tu es issu d'un mariage mixte maroc et alsacien, chapeau. Alors, on revient au sujet. Pourquoi je voulais parler de ça? Qu'est-ce qui se rappelle ce qui s'est passé avant?
Ah, pourquoi la gazoute?
Oui. Et pourquoi j'ai posé la question pourquoi la gazoute?
Parce qu'on a parlé d'Amalek. On a dit qu'avant la fin de la galoute, Amalek il est arrivé.
Non. C'est pas avant la fin. Au moment de la fin. D'ailleurs. Quand le moment du retour apparaît, Amalek surgit. Relisez les sources. Vous prendrez la paracha de Béchalach.